ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui sur la voix de l'Amérique, édition du jeudi 3 juillet. En votre compagnie, Idrissa Sédoudia et Chérubin Dorsil. Au sommaire ce soir, sommet de 11 pays africains sur l'épidémie d'Ebola. L'OMS réclame des mesures concrètes. En Centrafrique, réaction au sommet de l'Union africaine à Malabo, la société civile est loin d'être satisfaite. En Égypte, journée de la colère à l'occasion du premier anniversaire de la destitution de Mohamed Morsi. Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, la Colombie joue son va-tout demain face au Brésil, tandis que les Français se préparent à affronter le 11 allemand pour une place en quart de finale. Mais pour commencer, nous allons parler de la seconde et dernière journée de la réunion ministérielle d'urgence sur le virus Ebola à Accra, au Ghana. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, réclame au ministre ouest-africain de la Santé des mesures concrètes pour mettre un terme à la propagation de la maladie dans la région. En RCA, les conclusions du sommet de l'Union africaine tenu à Malabo continuent de susciter des réactions. Il s'agissait pour les participants de statuer sur la tenue d'un dialogue inter-centrafricain. Pour Clément de Mambat-Bouté, Malabo n'aura pas donné les résultats escomptés. À signaler également que les évêques centrafricains ont dénoncé hier les groupes armés qui font la loi dans le pays. Nous y reviendrons avec Félix Yepassis Zembro. Un membre du Parlement somalien a été tué aujourd'hui dans une attaque à Mogadiscio revendiquée par le groupe militant Al-Shabaab. Washington annonce le renforcement de la sécurité des aéroports étrangers desservant les États-Unis. De son côté, l'ambassade américaine en Ouganda a mis en garde ce jeudi contre une éventuelle attaque terroriste à l'aéroport international d'Entebbe. Nous faisons face à quelques incidents techniques ici, au micro, au studio. Alors donc, dès que tout sera rétabli, nous pourrons revenir plus en détail sur tous ces sujets. Washington, la voix de l'Amérique, restez à l'écoute. Dans un instant, nous reviendrons plus en détail sur ces sujets. Dès que nous aurons rétabli, Gabriel Gabi vient de me signaler que maintenant tout a été rétabli et qu'on peut vous parler de la seconde et dernière journée de la réunion ministérielle d'urgence sur le virus Ebola à Accra au Ghana. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, réclame au ministre ouest-africain de la santé des mesures concrètes pour mettre un terme à la propagation de la maladie dans la région. C'est Jean-Roger Bion qui nous en parle.
Keiji Fukuda, directeur général adjoint de l'OMS, a exprimé hier sa confiance que l'épidémie peut être endiguée. Dans une interview avec l'AFP, il a déclaré que l'on est confronté à l'épidémie d'Ebola la plus compliquée qui ait jamais éclaté en raison de sa rapide propagation à la fois dans les zones urbaines et rurales. Le dernier bilan de l'épidémie établi par l'agence onusienne est à 467 décès répartis entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. 11 pays africains sont représentés à la conférence d'Accra. La fièvre à virus Ebola, qui est hautement contagieuse, se propage par contact direct avec du sang ou d'autres fluides corporels d'une personne infectée. Selon l'OMS, les croyances traditionnelles, notamment le fait que les familles veulent personnellement enterrer leurs morts, entravent les efforts visant à juguler l'épidémie. Il n'existe aucun traitement ni vaccin spécifique contre le virus Ebola.
Et nous allons maintenant en République centrafricaine pour avoir la réaction de Clément de Mbamba Boutet sur le sommet de l'Union africaine à Malabo.
Il est simplement à déplorer que les recommandations du sommet de Malabo sont en deçà de ce que les Nations Unies recommandent. Les Nations Unies recommandent le désarmement intégral et au besoin par l'usage de la force de tous les détenteurs illégaux d'armes. Le sommet de Malabo n'a fait que demander à ce qu'on mette en place un gouvernement représentatif et que les gens se réunissent à Brazzaville pour parler, pour faire un dialogue national et à côté de cela autoriser les prochains dirigeants, peut-être ceux d'aujourd'hui aussi, à compétir aux prochaines échéances électorales. Or, il est à craindre qu'un tel chemin ne puisse répondre aux urgences et aux besoins de l'heure de la société centrafricaine qui ne sont pas la tenue d'un énième dialogue ou la formation d'un énième gouvernement, mais qui sont l'urgence sécuritaire, l'urgence humanitaire, la reconstitution de l'administration de l'État centrafricain qui sont aujourd'hui par terre.
Clément de Mamba Boutet de la société civile à Bangui a signalé également que les évêques centrafricains ont dénoncé hier les groupes armés qui font la loi dans le pays. Félix Yepassis Zembro.
Dans un message publié hier à Bangui, les évêques dénoncent tous les groupes armés qui dictent leurs lois en Centrafrique. Les ex-Séléka, les Antibalaka, les groupes d'autodéfense, les archipels, les nomades Mbarara, sans oublier l'armée de résistance du Seigneur, qui, selon les évêques, ont transformé le pays en une vaste prison à ciel ouvert. Les évêques déplorent que tuer, incendier des maisons, voire des villages entiers, traquer des gens en brousse, deviennent des actes anodins et sans poursuite judiciaire. Ils dénoncent également les innombrables attaques contre les religieux, dont l'assassinat de l'abbé Christ Forman Willibona de Bossangwa et la récente attaque contre les déplacés du site de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Bangui, qui avait fait 17 morts, ainsi que le meurtre de l'abbé Paul-Émile Nzalé, qui a été abattu le 28 mai dernier. Ce message a été publié le jour où 3 personnes ont été tuées et une autre blessée dans une attaque des ex-Séléka contre le village de Nankobo, près de Bambari, dans le centre du pays.
Un membre du Parlement somalien a été tué aujourd'hui dans une attaque à Mogadiscio, revendiquée par le groupe militant Al-Shabaab. Nathalie Barche.
Mohamed Mohamoud Haïd a été tué ce jeudi par des hommes armés qui ont tiré sur son véhicule dans la capitale somalienne. Un autre député qui voyageait avec lui, Abdoulaye Ahmed Konka, a dit à la Voix de l'Amérique que les assaillants ont ouvert le feu à partir d'un véhicule qui roulait à côté de celui de M. Haïd. Il a précisé que son garde du corps qui a riposté a également été tué. Un autre parlementaire présent dans la voiture a été blessé, tandis que M. Konka a échappé au tir. Le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a rapidement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les islamistes armés ont intensifié leurs attaques depuis le début du Ramadan, tuant au moins 7 agents de sécurité du gouvernement et un agent du fisc. Un porte-parole d'Al-Shabaab a déclaré que les attaques contre les cibles gouvernementales continueront. Le département d'État américain a condamné l'attaque contre le parlementaire, soulignant, je cite, qu'elle illustre bien la menace que représente Al-Shabaab pour tous les Somaliens et son total mépris pour les principes du Ramadan.
Washington annonce le renforcement de la sécurité des aéroports étrangers desservant les États-Unis. De son côté, l'ambassade américaine en Ouganda a mis en garde ce jeudi contre une éventuelle attaque terroriste à l'aéroport international d'Entebbe. Jacques Aristide.
C'est la police ougandaise qui a alerté la chancellerie américaine à Kampala contre ce qu'elle a qualifié de menace spécifique d'attaque terroriste jeudi entre 21h et 23h à l'aéroport situé en périphérie de la capitale. Aucune indication toutefois quant au groupe suspecté d'être derrière ce projet d'attaque. À la lumière de l'information, l'ambassade américaine conseille aux voyageurs ayant prévu de se rendre à l'aéroport dans la soirée de jeudi de revoir leur plan. Auparavant, des responsables de l'administration Obama avaient déclaré que les États-Unis prévoyaient de renforcer la sécurité dans certains aéroports étrangers, particulièrement en Europe et au Proche-Orient, avec des vols directs vers le pays. Washington craint la fabrication par Al-Qaïda de nouvelles bombes qui pourraient contourner les contrôles dans les aéroports et être introduites à bord d'un avion. Londres a également rehaussé les mesures de sécurité dans l'aviation après l'avertissement américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'aviation israélienne a frappé les cibles dans la bande de Gaza ce jeudi, alors que les militants palestiniens ont continué de lancer des roquettes contre le sud d'Israël. Après plusieurs tirs, les Israéliens ont renforcé leur présence militaire à la frontière avec Gaza. Félix Yepassi-Zembro.
L'armée israélienne dit avoir ciblé 15 sites terroristes de Hamas. Selon les autorités palestiniennes, 10 civils ont été tués. Pour les Israéliens, ces raids étaient en réponse à la vingtaine de roquettes tirées sur Israël depuis mercredi. La plupart de ces roquettes ont été interceptées, mais au moins deux de ces projectiles ont atteint des maisons dans la ville frontalière de Sderot. On ne signale pas de blessés. Pendant ce temps, les autorités israéliennes ont continué leur enquête sur la mort de Mohamed Abou Kuder, un Palestinien de 17 ans, enlevé, dont le corps a été retrouvé mercredi dans une forêt de la partie ouest de Jérusalem. Des responsables palestiniens accusent les colons israéliens de l'avoir assassiné pour se venger de l'enlèvement et du meurtre de 3 adolescents israéliens. Israël en impute la responsabilité à Hamas, qui dirige la bande de Gaza. Démenti de ce côté.
Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris à Vienne, en Autriche. Dans cette dernière série de pourparlers, les délégations des États-Unis, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine et de la Russie tentent de forger un accord permanent avec les représentants du gouvernement iranien avant la date butoir du 20 juillet. Des rencontres le mois dernier n'ont produit aucun résultat satisfaisant. Hier, Téhéran s'est dit prêt à adopter des mesures concrètes sans toutefois se laisser mettre à genoux, pour répéter le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a nommé de nouveaux responsables dans le secteur de la défense, notamment un nouveau ministre, Valery Heleté, et un nouveau chef d'état-major, Viktor Mouzenko. Entre-temps, les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine, de l'Allemagne, de la Russie et de la France ont déclaré hier à Berlin que la reprise des pourparlers entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes devrait se faire au plus tard samedi. L'objectif est de rétablir un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine.
Voilà pour le journal. Il est 19h40 temps universel, 15h40 ici à Washington. Le Monde aujourd'hui avec Idrissa Seloudia et Chérubin Dorsil. Maintenant, la partie magazine de notre émission.
Cinq personnes ont été tuées aujourd'hui au Caire dans des incidents séparés. Les frères musulmans ont appelé à une journée de la colère à travers l'Égypte pour marquer le premier anniversaire du renversement du président Mohamed Morsi par les militaires. Ce coup d'État a été suivi d'une répression violente qui a presque décimé le groupe islamiste. Michel Joseph fait le point.
Le mouvement des frères musulmans a été déclaré organisation terroriste et beaucoup de ses leaders, dont Mohamed Morsi, ont été incarcérés. Le tombeur du premier président démocratiquement élu d'Égypte, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi, a troqué l'uniforme contre le costume pour ensuite se présenter et remporter la présidence. Malgré la répression dont ils ont fait l'objet, les islamistes se sont joints à leurs alliés pour continuer leurs protestations, tentant ainsi de rendre le pays ingouvernable pour Sissi, estime l'AFP. Depuis le renversement de Morsi le 3 juillet 2013, au moins 1400 personnes ont été tuées dans les affrontements de rue et plus de 15 000 autres emprisonnées. Le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badier, a été condamné à mort dans un procès collectif plutôt rapide. Et puis, des militants ont lancé une série d'attaques qui ont tué plusieurs centaines de policiers et de soldats, surtout dans la péninsule troublée du Sinaï. Le gouvernement accuse les frères musulmans qui le démentent. Pour les groupes de défense des droits de l'homme, la récente répression a été plus sanglante en Égypte depuis des décennies, rappelle l'AFP. Cet anniversaire du renversement de Morsi coïncide avec le mois de Ramadan en Égypte, où les gens sont préoccupés non seulement par la situation dans leur propre pays, mais aussi dans la région où d'autres musulmans souffrent. Le marchand de rue Mohamed Marwan, actualité oblige, pense à l'Irak et à la progression fulgurante des militants islamistes sunnites. Dieu sauve l'Irak des Américains et de l'État islamique en Irak et au Levant et de tels problèmes. Franchement, nous souffrons beaucoup pour nos frères en Irak et en Syrie. Pour sa part, Oum Walid se félicite du calme relatif dans son pays cette année. Il y a une grande différence. Au moins cette année, nous sommes plutôt optimistes. L'année dernière, c'était la destruction qui prévalait. Et nous ne pouvions vraiment jouir de ce que nous avions à manger à la rupture du jeûne. Pour leur part, les frères musulmans ont appelé à une journée de la colère aujourd'hui pour marquer le premier anniversaire du renversement du président Mohamed Morsi par les militaires.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Au Cameroun, les musulmans observent le Ramadan avec une hausse alarmante des prix des aliments à cause de la fermeture des frontières pour se protéger contre les incursions de Boko Haram. Le Nigeria fournit jusqu'à 80% des vivres dans le nord du Cameroun. Le correspondant de la Voix de l'Amérique, Moki Edwin Kidzeka, a visité Amchide, un village à la frontière.
À Amchide, le commerce animé avec les vendeurs nigérians est au point mort. L'imam Ibrahim Ahmadou dit que les soldats camerounais ont fermé la frontière juste avant le Ramadan comme une mesure de sécurité contre les infiltrations des militants de Boko Haram. Le problème de son village, dit-il, c'est que le Nigeria est la principale source d'approvisionnement en nourriture.
80% of our rice is imported.
80% de notre riz est importé. Il est très risqué pour un homme d'affaires d'amener du riz, sachant qu'il va y avoir un problème. Même le maïs, l'huile, le sucre, en somme, toute la nourriture dont les musulmans ont besoin pendant le mois de Ramadan. Il y a un problème à cause des actes barbares de Boko Haram. La plupart des commerçants ne veulent pas venir. À la gare routière, Haliwu Lakoy vend des chaussures. Il signale une pénurie pour certains produits alimentaires comme le sucre, dont le prix a fortement augmenté. Tout est devenu plus cher et certains prix ont même doublé. Par conséquent, personne ne veut acheter et les affaires sont presque au point mort. Dans ce village, 9 personnes sur 10 gagnent leur pain grâce au commerce et la fermeture de la frontière a sérieusement affecté le panier de la ménagère. Soumou Bakari gagnait environ 200 dollars par jour. Maintenant, il reçoit à peine 50 dollars.
Quand le marché est bon, je peux même souvent laisser même 5 000. Et quand c'est mauvais, tu peux même laisser même 1 000 francs, même 2 000. Même si c'est petit, vous faites seulement comme ça avec. Si ne veut pas venir là, dire que oh, pourquoi tu as acheté ces petits? Parce que ce n'est pas elle qui vend. C'est les choses qui sont chères au marché. Et non, elle qui a rendu les choses chères.
Ce père de famille est donc obligé de réduire ses dépenses pour la nourriture pendant le Ramadan. Cela a un impact sur ses obligations religieuses, parce que les musulmans sont censés partager leur nourriture avec les plus démunis pendant ce mois. Mais l'imam Ibrahim Mamadou explique que dans certaines conditions, on ne peut pas jeûner. Selon la loi islamique, ils peuvent arrêter de jeûner si les prix sont si élevés qu'ils ne peuvent pas se permettre le luxe de satisfaire leurs besoins élémentaires durant le mois de Ramadan. Après cela, si les prix baissent, alors ils peuvent jeûner. Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Tangana, promet l'aide du gouvernement pendant le mois de carême.
Le gouvernement est vigilant et nous n'accepterons pas de débordement sur les prix. Nous rencontrons les opérateurs économiques pour discuter des stratégies d'approvisionnement du marché national en produits de grande consommation. Nous avons donc recadré les choses en nous assurant que les produits sont bel et bien disponibles, en tout cas pour ce qui est le riz, le poisson, les huiles raffinées, entre autres, mais aussi la farine.
Les mesures strictes de sécurité à la frontière vont encore influer sur le commerce bien après le Ramadan et toucheront aussi les entreprises nigérianes. Le Nigeria, de son côté, achète une grande quantité de coton, de sorgho, de maïs, du riz et des oignons produits au nord du Cameroun. Yaoundé et Abuja ont déclaré la guerre à Boko Haram, qui a multiplié ses attaques pendant ce mois de Ramadan.
La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
À l'occasion de la Journée mondiale sans sac plastique, nous avons choisi de revenir sur un des fléaux environnementaux de la planète. Les sachets ou sacs plastiques, 88% de la surface des océans, aujourd'hui pollués par des débris de plastique. Ils polluent aussi durablement les sols et les nappes phréatiques. À Dakar, comme dans beaucoup de capitales africaines, les sacs plastiques jonchent les rues. Les Sénégalais sont de plus en plus conscients du problème et certains demandent que la responsabilité de l'État soit engagée. Reportage de notre correspondante Dienaba Seydouba.
Ils sont unanimes. Les déchets plastiques ont envahi Dakar, ce que dénoncent nos interlocuteurs.
C'est très risqué pour notre environnement.
C'est un phénomène qui pose problème à Dakar.
Ça me désole parce que au niveau décor, c'est très désolant. Ils gardent le décor au niveau de la ville de Dakar.
Les sachets plastiques font partie du quotidien des Sénégalais. Et pourtant, ces sachets sont nocifs à l'environnement, nous dit Idrissa Sané et son ami Massamba Samb, rencontrés en centre-ville.
Ce n'est pas des déchets qui peuvent être transformés, qui peuvent donc pourrir et disparaître. Donc ils sont encore là, donc c'est un problème d'environnement. Je pense qu'il faut...
Vous en voyez beaucoup à travers les rues de Dakar?
Bien sûr. Vous allez à la boutique, vous achetez n'importe quoi, on vous met dans un chassé. Après utilisation, vous jetez un peu partout. C'est vraiment un désastre à Dakar.
Tu achètes un petit sandwich, tu achètes un petit produit, on te donne toujours... Des produits comme les sacs plastiques noirs. Et puis voilà quoi, pour moi c'est un fléau.
La présence de ces sachets dérange, alors qu'il faut trouver des solutions. Madame Barry Fama pense que le recyclage du plastique peut être une solution.
Puis on met en place des projets de recyclage, donc des produits plastiques.
Pour Massamba Samb, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour réguler l'utilisation des sachets plastiques.
Je pense que c'est une mauvaise volonté de l'État. Parce que si l'environnement, le ministère de l'Environnement, il y a un ministère qui prend ça en charge. S'il montre une volonté politique pour imposer l'utilisation des sachets, comment dirais-je, en papier, sera utilisé. Effectivement, moi, par exemple, quand je vais dans les stations, s'ils veulent me donner des sachets en plastique, je préfère prendre mes produits, n'est-ce pas? Parce que les personnes ne sont pas sensibilisées par rapport à l'environnement. Donc les Sénégalais ne sont pas, ils n'ont pas encore ce geste-là avec l'environnement. Parce que tout le monde se dit, ok, si c'est une personne, ça ne veut rien dire. Alors que c'est la somme de ces utilisations-là qui fait que la ville est infesté de produits en plastique.
Au Sénégal, selon des experts de l'environnement, au moins 5 millions de sachets en plastique sont utilisés par jour à travers des usages commerciaux et domestiques. Cela fait à peu près 128 milliards de sachets en plastique utilisés par an dans notre pays. Dienaba Seydouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
C'est l'heure du journal de la Coupe du Monde avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, on va parler des quarts de finale de la Coupe du Monde.
Oui, les quarts de finale qui commencent demain par un grand classique entre la France et l'Allemagne. Mais aussi à 20h temps universel, le pays hôte va en découdre avec la Colombie dans un derby sud-américain. J'ai demandé à Nicolas Pino, notre envoyé spécial au Brésil, donc de nous dire si le Brésil était prêt pour ce duel.
Les Brésiliens sont en mission, Bagassi, ils se sentent prêts, mais c'est vrai que la pression autour de la Seleção est de plus en plus grande, notamment à cause évidemment du dernier match contre le Chili qui a été péniblement gagné au pénalty. Alors la pression est là. Neymar, la star de 22 ans, a déclaré hier que les Brésiliens n'étaient pas là pour le spectacle, qu'ils étaient là pour gagner, c'est dire la détermination du groupe. Mais on a vu plusieurs fois les joueurs brésiliens, notamment après le match très intense contre le Chili, éclater en sanglots, et on a appris récemment qu'un psychologue suivait les Brésiliens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette équipe brésilienne qui est censé remporter ce trophée à la maison devant les supporters. Et donc un psychologue aide cette équipe, notamment Neymar, la star de ce groupe qui a 22 ans et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités pour ses jeunes épaules.
La mission des Colombiens pourrait être aussi de faire douter cette équipe du Brésil.
Et oui, notamment je pense que l'équipe qui va marquer le premier but aura un ascendant psychologique sur son adversaire. Alors c'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois, la Colombie qui était un peu une de ces équipes surprises qu'on n'attendait pas jusqu'en quart de finale, c'est le premier quart de finale de cette équipe colombienne. Et son buteur évidemment, James Rodriguez, auteur de 5 buts, meilleur buteur du tournoi. Tout le monde se méfie de ce joueur, évidemment. Et on aura aussi une pensée pour Falcao, le joueur, la star, qui est absent de ce mondial et pour le moment, en tout cas, l'équipe colombienne qui ne ressent pas justement cette absence.
Et Nicolas, un mot sur les supporters argentins qui seraient en grand nombre.
Eh oui, le quart de finale, évidemment, contre la Belgique, ce sera à Brasilia, la capitale brésilienne. Et l'ambassade argentine à Brasilia a estimé qu'au moins 20 000 supporters argentins allaient déferler. Il va y avoir même un parking installé spécialement avec 4 000 véhicules qui pourront être accueillis sur ce parking avec des douches et notamment des sanitaires. On voit la ferveur autour de l'Argentine, l'un des meilleurs ennemis du Brésil est toujours là.
Et demain, bien sûr, il y a la grande affiche France-Allemagne-Est. C'est un classique au Maracana finalement.
Et oui, Bagassi, c'est un classique. Les Français pleurent encore les matchs de 1982-1986 où les Allemands, qui s'appelaient à l'époque la RFA, avaient évidemment éliminé les Français. Mais 30 ans plus tard, l'époque a changé. Les Allemands, la plupart, n'étaient pas nés, ni les joueurs français. Donc c'est vrai qu'on est dans une nouvelle époque. L'Allemagne n'a plus rien gagné depuis 1990. Les Français n'ont gagné qu'une seule fois la Coupe du Monde en 1998. Didier Deschamps, le sélectionneur, faisait partie de cette équipe dorée. Alors, c'est vrai que les rancœurs sont un peu oubliées, mais c'est un classique. Et ça va être intéressant de voir comment la jeune génération française, qui est talentueuse, mais qui est très très jeune, va pouvoir faire face à l'expérience allemande. Les Allemands qui sont légèrement favoris sur ce match.
Voilà, des Allemands légèrement favoris. C'était donc notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Et vous savez que l'Allemagne qui affronte donc la France l'avait déjà battue, hein, Nicolas l'a dit, en 82 et en 86. Et demain, on aura une équipe allemande qui compte bien sûr remporter la Coupe du Monde. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. L'Allemagne que la France rencontre en quart de finale de la Coupe du Monde de football est tout simplement une institution du football européen et mondial. Toujours présente et toujours placée, l'Allemagne aligne 18 participations sur 20 possibles et 3 titres en Coupe du Monde, autant en Coupe d'Europe des Nations, plus 4 places mondiales de second et 4 demi-finales, tout simplement colossales. Les recettes de l'Allemagne ont de tout temps été les mêmes. Les joueurs germaniques voyageant peu ou tard, la sélection est bâtie sur l'ossature du club phare qui depuis quelques décennies est le Bayern Munich. Des individualités complémentaires venant se greffer sur ce noyau dur garantissent à l'ensemble, le collectif, l'esprit d'équipe, la discipline de jeu pour un objectif commun, des qualités indispensables pour aller loin ou s'imposer. Or, la Mannschaft présente au Brésil en ce moment a en plus profité de circonstances qui ont amélioré sa qualité. Une politique tardive mais réussie de formation a produit une pléthore de joueurs de qualité et rehaussé le niveau de la Bundesliga pour le grand bien des clubs phares et de l'équipe nationale avec en prime la même philosophie de jeu. Alors l'Allemagne a incontestablement aujourd'hui l'occasion de dépoussiérer ses trophées devenus trop vieux et cela passe avant tout par une victoire contre la France comme au bon vieux temps. À bientôt.
Comme au bon vieux temps, Chérubin, c'était quand même votre temps, hein, 82, 86, vous vous rappelez?
Oui, mais je pense surtout à 82 avec les gentils Ghana, avec Batiston. Je n'oublierai jamais ce que Schumacher, le gardien allemand, a fait à Batiston. Et c'était fantastique. Et c'était donc aussi l'année de la meilleure équipe brésilienne avec le docteur Socrates et compagnie.
Oui, et peut-être avec votre mémoire qui remonte aussi loin, peut-être cette dernière information peut vous intéresser. Une équipe de chercheurs allemands vient de démontrer que le nombre de crises cardiaques augmenterait significativement lors des rencontres du Mondial en comparant les données des urgences allemandes entre les jours où la Mannschaft, l'équipe allemande, donc, jouait en 2006 et des jours sans Coupe du Monde. Les chercheurs ont découvert, Chérubin, que le nombre d'accidents cardiovasculaires était multiplié par 2,7 les jours de match et même par 3,3 pour les seuls hommes. Le pic était même atteint lors des matchs les plus tendus, comme lorsque l'Allemagne avait éliminé l'Argentine au tir au but, 5 fois plus d'accidents. Souhaitons aux Allemands, Chérubin, que le match de demain n'aille pas en prolongation.
Oui, c'est vrai ce que dit ce chercheur Bagassi. On a eu une mauvaise nouvelle de la Côte d'Ivoire l'autre jour et il y a eu des décès à cause justement de l'élimination de l'équipe face à la Grèce. Et quand le Brésil perd, alors là, n'en parlons pas.
Et notons aussi qu'à la veille donc des deux premiers quarts du mondial, France-Allemagne et Brésil-Colombie, la police brésilienne a indiqué ce jeudi qu'un membre de la FIFA était soupçonné, Chérubin, d'être à l'origine d'un trafic de bière.
Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Nous avions M. Marc Houllier à la console technique, à la présentation Idrissa Seloudia et Chérubin Dorsil. Bonsoir. Thomas.